Chapitre 11, la nouvelle chanson du choix-pot magique. Harry ne voulait pas révéler aux autres que Luna et lui partageaient la même hallucination. Si toutefois c'en était une. Il ne parla donc plus des chevaux et s'assit à l'intérieur de la diligence, dont il claqua la portière derrière lui. Il ne put s'empêcher cependant de regarder les silhouettes des chevaux qu'il voyait bouger par la fenêtre.
« Vous avez vu la gobe blanche ?» demanda Ginny. « Qu'est-ce qu'elle est revenue faire ici ? Hagrid n'est quand même pas parti, non ?»«
Moi, je serais contente s'il n'était plus là, » dit Luna. « Ce n'est pas un très bon prof. »«
Bien sûr que si, c'est un bon prof !»
s'exclamèrent Harry, Ron et Ginny avec colère. Harry jeta un regard noir à Hermione qui tout sauta et dit précipitamment
« Oui, il est très bon. »
« Nous, à Serre d'Aigle, on trouve que ces cours sont une plaisanterie, »
reprit Luna, imperturbable.
« Alors vous devez avoir un sens de l'humour particulièrement lamentable, » répliqua Ron, tandis que la diligence s'ébranlait dans un grincement de roues.
Luna ne sembla nullement affectée par la grossièreté de Ron. Elle se contenta de le regarder pendant un moment, comme si elle avait jeté un coup d'œil à une émission de télévision d'un intérêt limité. Brinque-ballant, dans un bruit de ferraille, le convoi des diligences remonta la route en direction du château. Lorsqu'ils passèrent entre les deux grands piliers de pierre surmontés de sangliers ailés qui encadraient le portail de l'école, Harry se pencha en avant pour voir s'il y avait de la lumière dans la cabane de Hagrid près de la forêt interdite. Mais le parc était plongé dans une obscurité totale. Le château de Poudlard, en revanche, dessinait de plus en plus nettement la silhouette de ses hautes tours d'un noir de jais qui se détachait contre le ciel nocturne. Par endroits, une fenêtre allumée brillait d'une lueur flamboyante au-dessus de leur tête. Les diligences s'arrêtèrent dans un cliquetis métallique devant les marches de pierre qui menaient à la double porte de chêne de l'entrée. Harry fut le premier à descendre. Il scruta à nouveau le parc pour essayer de distinguer une lumière du côté de la forêt interdite, mais il n'y avait toujours pas le moindre signe de vie dans la cabane de Hagrid. À contre-cœur, et avec le vague espoir qu'elle se soit volatilisée, il se tourna à nouveau vers les étranges créatures squelettiques, immobiles et muettes dans la fraîcheur nocturne, leurs yeux blancs luisant d'un regard vide. Il était déjà arrivé à Harry de voir quelque chose que Ron ne voyait pas, mais c'était un reflet dans un miroir, beaucoup moins réel qu'une centaine d'animaux bien solides, suffisamment robustes pour tirer toute une flotte de diligences. À en croire Luna, les créatures avaient toujours été présentes, mais restaient invisibles. Pourquoi, dans ce cas, Harry pouvait-il soudain les voir, et pas Ron ?
« Alors tu viens ou pas ?» lui dit Ron.
« Hein ? Ah oui !»
répondit Harry. Et ils se joignirent à la foule qui se hâtait de monter les marches pour pénétrer dans le château. Le hall d'entrée était éclairé par des torches enflammées et résonnait du martèlement des pas sur les dalles de pierre, tandis que les élèves se pressaient vers la grande salle où aurait lieu le festin du début d'année. Les quatre longues tables, une pour chaque maison, se remplissaient sous le plafond noir sans étoiles, semblable au ciel qu'on apercevait à travers les hautes fenêtres. Tout au long des tables, des chandelles flottaient dans les airs, illuminant les fantômes argentés dispersés dans la salle, et les visages des élèves qui s'interpellaient d'une maison à l'autre et observaient d'un œil critique les nouvelles coupes de cheveux ou les nouvelles robes. Cette fois encore, Harry vit des têtes se pencher les unes vers les autres en chuchotant sur son passage. Il serra les dents et fit mine de ne rien remarquer ou de ne pas s'en soucier. Luna s'éloigna d'eux pour se diriger vers la table de Serre d'Aigle. Dès qu'ils eurent rejoint celle de Gryffondor, Ginny fut appelée par des amis de quatrième année et alla s'asseoir avec eux. Harry, Ron, Hermione et Neville trouvèrent des places vers le milieu de la table entre Nick quasi sans tête, le fantôme de la maison Gryffondor, et Parvati Patil assise à côté de la Van Braun. À en juger par les démonstrations d'amitié excessive avec lesquelles elles l'accueillirent, Harry fut convaincu qu'elle parlait encore de lui une fraction de seconde avant son arrivée. Il avait cependant d'autres préoccupations plus importantes. Il observait en effet la table des professeurs dressée à l'extrémité de la salle.
« Il n'est pas là, » dit-il.
Bien que ce fût inutile, Ron et Hermione regardèrent à leur tour. La taille de Hagrid le rendait immédiatement reconnaissable au sein de n'importe quelle assemblée.
« Il ne peut quand même pas être parti définitivement, » dit Ron un peu anxieux.
« Bien sûr que non, » répondit Harry d'un ton convaincu.
« Tu ne crois pas qu'il aurait pu être blessé ou je ne sais quoi ?»
dit Hermione mal à l'aise.
« Non, » répliqua aussitôt Harry.
« Mais alors où est-il ? »
Il y eut un silence, puis, à voix très basse, pour que Neville, Parvati et Lavande ne puissent pas l'entendre, Harry répondit.
« Peut-être qu'il n'est pas encore rentré de sa mission, ce qu'il devait faire pendant l'été pour Dumbledore. »
« Oui, oui, ça doit être ça !»
dit Ron, qui parut rassuré. Mais Hermione se mordit la lèvre et observa la table des professeurs comme dans l'espoir d'y découvrir une autre explication satisfaisante à l'absence de Hagrid.
« Qui c'est ça ?»
demanda-t-elle brusquement en montrant le milieu de la table. Harry suivit son regard. Il vit d'abord le professeur Dumbledore, vêtu d'une robe pourpre parsemée d'étoiles argentées et coiffée d'un chapeau assorti. Il était assis au centre de la grande table, dans son fauteuil d'or, au dossier haut, la tête penchée vers sa voisine, qui lui parlait à l'oreille. Une sorcière aux mines de vieille tante célibataire. Elle était trapue, avec des cheveux courts et bouclés, d'une teinte châtain clair, dans lesquels elle avait glissé un horrible bandeau rose, genre Alice au Pays des Merveilles, assorti à son cardigan de laine pelucheuse, également rose, qu'elle portait par-dessus sa robe. Lorsqu'elle se tourna pour boire à sa coupe, Harry reconnut avec horreur la tête de crapaud blafarde et les deux gros yeux soulignés de cernes.
« C'est cette bonne femme, Dolores Ombrage !»«
Qui ?»
dit Hermione.
« Elle était au tribunal, elle travaillait avec Fudge. »«
Dolly Cardigan, hein, » remarqua Ron avec un sourire narquois.
« Elle travaille avec Fudge ?»
répéta Hermione en fronçant les sourcils.
« Et qu'est-ce qu'elle fait ici alors ?»
« Fais pas !» Hermione, les yeux plissés, scrutait la table des professeurs.
« Non » marmonna-t-elle. « Non, sûrement pas !»
Harry ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais il ne posa pas de questions. Son attention avait été attirée par le professeur, Gob Planche, qui venait d'apparaître derrière la longue table. Elle se fraya un chemin jusqu'à son extrémité et s'assit à la place qui aurait dû revenir à Hagrid. Ce qui signifiait que les premières années devaient avoir traversé le lac et être arrivées au château. En effet, quelques secondes plus tard, les portes de la grande salle s'ouvrirent et une longue file de nouveaux entra derrière le professeur McGonagall. Celle-ci portait un tabouret sur lequel était posé un antique chapeau de sorcier, raccommodé de toutes parts et avec une large déchirure tout près du bord. La rumeur des conversations cessa, et les premières années s'alignèrent devant la table des professeurs face aux autres élèves. Le professeur McGonagall plaça soigneusement le tabouret devant eux, puis fit un pas en arrière. La lumière des chandelles éclairait les visages au teint pâle des nouveaux. Un jeune garçon, au milieu de la file, tremblait de tous ses membres. Harry eut le souvenir fugitif de sa propre terreur lorsqu'il s'était trouvé à cette même place, dans l'attente du mystérieux examen qui déterminerait à quelle maison il allait appartenir. L'école tout entière attendit en retenant son souffle. La déchirure qui traversait l'étoffe juste au-dessus du bord s'ouvrit alors largement, et le chapeau magique chanta sa chanson.
« Oh, temps anciens, lorsque j'étais tout neuf et que Poudlard sortait à peine de l'œuf, les fondateurs de notre noble école de l'unité avaient fait leur symbole. Rassemblés par la même passion, ils avaient tous les quatre l'ambition de répandre leur savoir à la ronde dans l'école la plus belle du monde. Ensemble, bâtissons et instruisons, décidèrent les quatre compagnons. Sans jamais se douter qu'un jour viendrait où la destinée les séparerait. Toujours amis à la vie, à la mort, tels étaient Serpentard et Gryffondor. Toujours amis jusqu'à leur dernier souffle, tels étaient aussi Serdaigle et Poufsouffle. Comment alors peut-on s'imaginer que pareille amitié vienne à sombrer? J'en fus témoin, et je peux de mémoire vous raconter la très pénible histoire. Serpentard disait, il faut enseigner aux descendants des plus nobles lignées. Serdaigle disait, donnons la culture à ceux qui ont l'intelligence sûre. Gryffondor disait, tout apprentissage ira d'abord aux enfants du courage. Poufsouffle disait, je veux l'équité, tous mes élèves sont à égalité. Lorsqu'apparurent ces quelques divergences, elles n'eurent d'abord aucune conséquence, car chacun ayant sa propre maison pouvait enseigner selon sa façon et choisir des disciples à sa mesure. Ainsi Serpentard voulait un sang pur chez les sorciers de son académie, et qu'ils aient comme lui ruse et rouerie. Seuls les esprits parmi les plus sagaces pouvaient de serre d'aigle entrer dans la classe, tandis que les plus braves des trompes la mort allaient toucher le hardi griffon d'or. La bonne Poufsouff prenait ce qui restait pour leur enseigner tout ce qu'elle savait. Ainsi les maisons et leurs fondateurs connurent de l'amitié la valeur. Poudlard vécut alors en harmonie, de longues années libres de soucis. Mais parmi nous la discorde grandit, nourrie de nos peurs et de nos folies. Les maisons qui, comme quatre piliers, soutenaient notre école et ses alliés, s'opposèrent bientôt à grand fracas, chacune voulant imposer sa loi. Il fut un temps où l'école parut, tout près de sa fin à jamais perdue. Ce n'était partout que duels et conflits, les amis dressés contre les amis, si bien qu'à matin le vieux Serpentard estima venu l'heure de son départ. Et bien que l'on vit cesser les combats, il laissait nos cœurs en grand désarroi. Et depuis que les quatre fondateurs furent réduits à trois pour leur malheur, jamais plus les maisons ne furent unies comme elles l'étaient au début de leur vie. Maintenant le choix pour magique est là, et vous connaissez tous le résultat. Je vous répartis dans les quatre maisons, puisque l'on m'a confié cette mission. Mais cette année, je vais en dire plus long. Ouvrez bien vos oreilles à ma chanson. Bien que condamné à vous séparer, je ne peux pas m'empêcher de douter. Il me faut accomplir ma destinée, qui est de vous répartir chaque année. Mais je crains que ce devoir aujourd'hui n'entraîne cette fin qui m'horrifie. Voyez les dangers, lisez les présages que nous montre l'histoire et ses ravages. Car notre Poudlard est en grand péril devant des forces puissantes et hostiles. Et nous devons tous nous unir en elle pour échapper à la chute mortelle. Soyez avertis et prenez conscience. La répartition maintenant commence.
Le chapeau redevint immobile et la salle éclata en applaudissements. Mais pour la première fois, autant que Harry pouvait s'en souvenir, ils furent accompagnés de murmures et de marmonnements divers. D'un bout à l'autre de la grande salle, les élèves échangeaient des commentaires avec leurs voisins et Harry, qui n'en continuait pas moins d'applaudir avec les autres, savait très bien de quoi il parlait.
« Il a un peu débordé du sujet cette année, dit Ron en haussant les sourcils.
« Ça, c'est vrai, dit Harry. Le choix-peau magique se contentait ordinairement d'énoncer les qualités que chacune des différentes maisons de Poudlard exigeait de ses élèves et de préciser le rôle que lui-même jouait dans leur répartition. Harry ne se souvenait pas de l'avoir jamais entendu prodiguer des conseils à l'école.
« Je me demande... « S'il a jamais donné de tels avertissements dans le passé, » dit Hermione, légèrement inquiète.
« Oh, si !» répondit Nick, quasi sans tête, qui savait de quoi il parlait.
Il se pencha vers Hermione en traversant Neville, qui fit une grimace. Il était très inconfortable d'avoir un fantôme en travers du corps.
« Le choix-peau estime qu'il est de son devoir de donner des avertissements à l'école lorsqu'il pense que la situation l'exige. »
Mais le professeur McGonagall attendait de lire la liste des noms des premières années et elle jeta aux élèves qui continuaient de chuchoter un regard aussi pénétrant qu'une brûlure. Nick, quasi sans tête, posa sur ses lèvres un index transparent et se redressa sagement tandis que les chuchotements s'interrompaient soudain. Après avoir balayé chacune des tables d'un dernier regard sévère, le professeur McGonagall baissa les yeux sur son long morceau de parchemin et appela le premier nom de la liste.
Abercrombie et Wan.
Le jeune garçon terrifié que Harry avait déjà remarqué
s'avança d'un pas trébuchant et coiffa le chapeau magique qui lui serait tombé jusqu'aux épaules s'il n'avait été retenu par ses oreilles proéminentes. Le chapeau réfléchit un instant, puis sa déchirure en forme de bouche annonça
« Gryffondor !»
Harry applaudit bruyamment avec les autres Gryffondor, tandis que Ewan Abercrombie venait s'asseoir à leur table d'un pas chancelant, en ayant l'air de vouloir disparaître à travers le plancher pour ne plus jamais subir le moindre regard. Peu à peu, la longue file des premières années diminua. Dans les moments de silence, entre deux décisions du chapeau, Harry entendait l'estomac de Ron gronder bruyamment. Enfin, Zeller, Rose, fut envoyé à Poufsouffle et le professeur McGonagall remporta le chapeau et son tabouret hors de la grande salle tandis que le professeur Dumbledore se levait. Malgré l'amertume que son directeur avait pu lui inspirer ces derniers temps, Harry se sentit rassuré de voir Dumbledore face à eux. Entre l'absence de Hagrid et l'apparition de ses chevaux aux allures de dragon, il trouvait que son retour tant attendu à Poudlard lui avait réservé de très désagréables surprises, comme des fausses notes dans une mélodie familière. Mais en cet instant, tout au moins, les choses se passaient comme prévu. Leur directeur se levait pour les accueillir au festin qui marquait le début du trimestre.
« À ceux qui sont ici pour la première fois !»
déclara Dumbledore d'une voix claironnante, les bras écartés et le visage illuminé d'un sourire rayonnant.
« Je souhaite la bienvenue. Et à nos anciens, je dis... « Bon retour parmi nous. Il y a un temps pour les discours, et justement, ce temps n'est pas encore venu. Alors, bon appétit !»
Un éclat de rire appréciateur et une salve d'applaudissements saluèrent ces paroles. Dumbledore se rassit et rejeta sa longue barbe par-dessus son épaule pour éviter qu'elle ne tombe dans son assiette. Car à présent, des plats innombrables avaient surgi de nulle part et les cinq longues tables croulaient sous les rôtis, les pâtés, les panachés de légumes, le pain, les sauces et les bonbonnes de jus de citrouille.
« Merveilleux !» dit Ron avec un grognement de satisfaction.
Il attrapa un plat de côtelettes et se mit à en empiler dans son assiette sous l'œil mélancolique de Nick quasi sans tête.
« Que disiez-vous avant la répartition ?»
demanda Hermione au fantôme.
« Au sujet des avertissements donnés par le chapeau ?»«
Ah oui !»
répondit Nick, apparemment content d'avoir un prétexte pour se détourner de Ron qui était occupé à dévorer des pommes de terre sautées avec un enthousiasme proche de l'indécence.
« Oui, j'ai déjà entendu le chapeau donner des avertissements à plusieurs reprises. C'était toujours à des moments où il sentait venir des périodes de grand péril pour l'école. Et bien sûr, il conseille toujours la même chose, rester unis pour être plus forts.
Dit
Ron. Il avait la bouche tellement pleine que le simple fait d'avoir réussi à émettre quelques sons constituait déjà un exploit.
« Je vous demande pardon !»
dit poliment Nick, quasi sans tête, tandis qu'Hermione paraissait outrée. Ron avala avec difficulté et reprit.
« Comment un sapeau peut-il savoir quand l'école est en danger ?»«
Je l'ignore !»
répondit Nick.
« Mais comme il passe son temps dans le bureau de Dumbledore, on peut imaginer qu'il entend parfois des choses. »
« Et il veut que toutes les maisons soient amies ?»
dit Harry en jetant un coup d'œil à la table des Serpentards, où Drago Malfoy tenait salon.
« Il peut toujours rêver !»«
Vous ne devriez pas adopter une telle attitude !»
répliqua Nick d'un air réprobateur.
« La coopération dans la paix, voilà la clé de tout. Nous autres fantômes, bien que nous appartenions à des maisons différentes, savons maintenir des liens d'amitié, en dépit de la rivalité entre Gryffondor et Serpentard. » Je ne songerai jamais à me disputer avec le baron sanglant.
Ça, c'est parce qu'il vous fait une peur bleue,
dit Ron. Nick, quasi sans tête, parut profondément offensé.
Peur? J'ose espérer que moi, Sir Nicolas de Mimsy, Porpinton, je ne me suis jamais rendu coupable de couardise. Le noble sang qui coule dans mes veines.
Quel sang? S'étonna Ron. Vous n'avez sûrement plus de...
« C'est une façon de parler !»
l'interrompit Nick, quasi sans tête, si exaspéré à présent que sa tête oscillait dangereusement sur son cou en partie tranchée.
« Les plaisirs de la table en beau maître refusés, je n'en conserve pas moins le droit d'employer le vocabulaire qui me convient. Mais je suis habitué à entendre les élèves se moquer de moi sous le prétexte que je suis mort, croyez-le bien. »«
Nick,
Il ne se moquait pas de vous, assura Hermione en jetant un regard furieux à Ron. Malheureusement, la bouche de Ron était à nouveau si pleine qu'elle menaçait d'exploser, et les seuls sons qu'il parvint à produire se résumèrent à ce que Nick ne sembla pas considérer comme des excuses appropriées. S'élevant dans les airs, il redressa son chapeau à plumes et glissa à l'autre bout de la table où il s'arrêta entre les frères Crivet, Colin et Denis.
« Bravo, Ron, bien joué !» lança sèchement Hermione.
« Quoi ?» s'indigna-t-il après avoir enfin réussi à avaler ce qu'il avait dans la bouche. « Je n'ai même plus le droit de poser une simple question ?»«
Oh, laisse tomber !» répliqua Hermione agacée. Et tous deux passèrent le reste du repas enfermés dans un silence boudeur.
Harry était trop habitué à leurs disputes pour se soucier des réconcilier. Il jugea préférable de se consacrer à la dégustation de sa tourte de bœuf au rognon, qui fut suivie d'une grande assiettée de tarte à la mélasse, son dessert favori. Lorsque tous les élèves eurent fini de dîner et que le niveau sonore des conversations recommença à monter, Dumbledore se leva à nouveau. Tout le monde s'interrompit aussitôt et les têtes se tournèrent vers lui. Harry éprouvait à présent une agréable sensation de somnolence. Son lit à baldaquin l'attendait là-haut, merveilleusement doux et tiède.
« À présent que nous sommes tous occupés à digérer un autre de nos somptueux festins, je vous demande de m'accorder quelques instants d'attention afin que je puisse vous donner les traditionnelles recommandations de début d'année, »
déclara Dumbledore.
« Les nouveaux doivent savoir que la forêt située dans le parc est interdite d'accès. Il ne serait d'ailleurs pas inutile que quelques-uns de nos plus anciens élèves s'en souviennent aussi. »
Harry, Ron et Hermione échangèrent des sourires.
« Monsieur Ruzard, le concierge, m'a demandé de vous rappeler pour la 462e fois, selon lui, que l'usage de la magie n'est pas autorisé dans les couloirs entre les heures de cours et que beaucoup d'autres choses sont également interdites, dont la liste complète est désormais affichée sur la porte de son bureau. Nous aurons cette année deux nouveaux enseignants. Je suis particulièrement heureux d'accueillir à nouveau parmi nous le professeur Gob Planche, qui assurera les cours de soins aux créatures magiques. J'ai également le plaisir de vous présenter le professeur Ombrage, qui enseignera la défense contre les forces du mal. »
Il y eut quelques applaudissements polis, dépourvus du moindre enthousiasme, pendant lesquels Harry, Ron et Hermione se regardèrent d'un air alarmé. Dumbledore n'avait pas précisé combien de temps le professeur Gobe-Planche occuperait son poste. Le directeur reprit la parole.
« Les essais pour la constitution des équipes de Quidditch de chacune des quatre maisons auront lieu le... »
Il s'interrompit en lançant un regard interrogateur au professeur Ombrage. Comme celle-ci n'était pas beaucoup plus grande debout qu'assise, il y eut un moment d'incertitude au cours duquel personne ne comprit pourquoi Dumbledore s'était tu. Le professeur Ombrage s'éclaircit alors la gorge. Et il devint manifeste qu'elle s'était levée avec l'intention de faire un discours. Pendant un bref instant, Dumbledore parut pris au dépourvu, puis il se rassit avec élégance et regarda le professeur Ombrage d'un air intéressé comme si rien ne pouvait lui procurer plus grand plaisir que de l'écouter parler. D'autres membres du corps enseignant ne se montrèrent pas aussi habiles à cacher leur surprise. Les sourcils du professeur Chourave se levèrent si haut qu'ils disparurent derrière ses mèches rebelles, et Harry n'avait jamais vu les lèvres du professeur McGonagall aussi pincées. Jusqu'à présent, aucun nouvel enseignant ne s'était jamais permis d'interrompre Dumbledore. De nombreux élèves affichaient un sourire narquois. De toute évidence, cette femme ignorait les traditions de Poudlard.
Cher directeur, pour ces aimables paroles de bienvenue,
minauda le professeur Ombrage. Elle avait une voix de petite fille, haut perchée et un peu voilée. Cette fois encore, Harry éprouva à son égard un puissant élan d'antipathie qui ne parvenait pas à s'expliquer. La seule chose certaine, c'est que tout en elle lui inspirait un profond dégoût, depuis sa petite voix stupide jusqu'à son cardigan en rose et pelucheux.
Elle s'éclaircit une nouvelle fois la gorge et reprit.
« Je dois dire que c'est un grand plaisir de revenir à Poudlard. »
Elle sourit en découvrant des dents pointues.
« Et de voir tous ces joyeux petits visages levés vers moi. »
Harry jeta un regard autour de lui. Aucun visage ne lui parut joyeux. Les élèves semblaient plutôt surpris de s'entendre traiter comme des enfants de 5 ans.
« J'ai hâte de vous connaître tous, mais je suis sûre que nous deviendrons vite de très bons amis. »
Autour des tables, il y eut des échanges de coups d'œil. Certains cachaient à peine leur sourire ironique.
« Moi, je veux bien être ami avec elle du moment qu'elle ne m'oblige pas à porter son cardigan. »
murmura Parvati à Lavande, et toutes deux pouffèrent d'un rire silencieux. Le professeur Ombrage s'éclaircit à nouveau la gorge. Mais lorsqu'elle reprit son discours, sa voix était beaucoup moins voilée. Elle parlait plutôt comme une femme d'affaires, et les mots qu'elle prononçait avaient le rythme morne d'un discours appris par cœur.
« Le ministère de la magie a toujours accordé une importance primordiale à l'éducation des jeunes sorcières et des jeunes sorciers. Les quelques dons que vous avez pu recevoir à votre naissance ne se révéleraient pas d'une très grande utilité si une instruction attentive ne se chargeait de les cultiver et de les affiner. L'ancien savoir, dont la communauté des sorciers est l'unique dépositaire, doit être transmis aux nouvelles générations si nous ne voulons pas qu'il se perde à jamais. » Le trésor de la connaissance magique amassé par nos ancêtres doit être conservé, enrichi, bonifié par ceux qui sont appelés à la noble mission de l'enseignement.
Le professeur Ombrage marqua une pause et inclina légèrement la tête en direction de ses collègues, mais aucun ne lui rendit son salut. Les sourcils noirs du professeur McGonagall s'étaient froncés à tel point qu'elle avait l'air d'un faucon, et Harry la vit échanger un regard éloquent avec le professeur Chourave, tandis qu'Ombrage, après un nouveau « poursuivait son discours.
« Chaque directeur, chaque directrice de Poudlard a apporté quelque chose de nouveau en accomplissant la lourde tâche de gouverner cette école historique, et c'est ainsi qu'il doit en être, car l'absence de progrès signifie la stagnation, puis le déclin. Mais le progrès pour le progrès ne doit pas être encouragé pour autant, car nos traditions éprouvées par le temps n'ont souvent nul besoin d'être modifiées. Un équilibre entre l'ancien et le nouveau, entre la pérennité et le changement, entre la tradition et l'innovation. »
Harry s'aperçut que son attention avait tendance à faiblir comme si son cerveau s'éteignait par instants. Le silence qui accompagnait habituellement les discours de Dumbledore était à présent rompu par les chuchotements et les rires étouffés des élèves penchés les uns vers les autres. À la table de Serre d'Aigle, Cho Chang était en grande conversation avec ses amis. Un peu plus loin, Luna Lovegood avait ressorti le chicaneur. À la table de Poufsouffle, cependant, Ernie Macmillan était l'un des rares à garder les yeux fixés sur le professeur Ombrage. Mais il avait le regard vitreux, et Harry fut convaincu qu'il faisait semblant d'écouter pour se montrer digne de l'insigne de préfet qui brillait sur sa poitrine. Le professeur Ombrage ne semblait pas remarquer l'agitation de la salle. Harry avait l'impression qu'une émeute aurait pu éclater sous son nez sans qu'elle renonce pour autant à annonner son discours jusqu'à la fin. Les autres professeurs, en revanche, l'écoutait très attentivement, et Hermione avait l'air de boire chacune de ses paroles, même si, à en juger par son expression, elle n'était pas du tout de son goût.
« Car certains changements seront pour le mieux alors que d'autres, à l'épreuve du temps, apparaîtront comme des erreurs de jugement. De même, certaines coutumes anciennes seront conservées à juste titre, tandis que d'autres, usées et démodées, devront être abandonnées. » Aussi, n'hésitons pas à entrer dans une ère nouvelle d'ouverture, d'efficacité, de responsabilité, avec la volonté de préserver ce qui doit être préservé, d'améliorer ce qui doit être amélioré, et de tailler dans le vif chaque fois que nous serons confrontés à des pratiques dont l'interdiction s'impose. »
Elle se rassit, et Dumbledore applaudit. Les autres professeurs l'imitèrent, mais Harry remarqua que plusieurs d'entre eux se contentèrent de claquer des mains une ou deux fois seulement.
Quelques élèves suivirent, mais la plupart avaient été surpris par la fin du discours dont ils n'avaient écouté que quelques mots. Et avant qu'ils aient eu le temps d'applaudir vraiment, Dumbledore s'était à nouveau levé.
« Merci beaucoup, professeur Ombrage, pour ce discours très éclairant !»
dit-il en s'inclinant vers elle.
« À présent, comme je vous l'annonçais, les essais pour la constitution des équipes de Quidditch auront lieu le... »«
Ça, pour être éclairant, c'était éclairant !»
dit Hermione à voix basse. « Tu vas pas me dire que ça t'a captivé, non ?» murmura Ron en tournant vers Hermione un visage éteint.
« T'es le discours le plus ennuyeux que j'ai jamais entendu, et pourtant, moi, j'ai grandi avec Percy. »«
J'ai dit éclairant, pas captivant, » répondit-elle. « C'était très révélateur. »«
Vraiment ?» s'étonna Harry.
« Moi, ça m'a donné l'impression d'une sauce insipide. »«
Il y avait beaucoup d'ingrédients cachés dans la sauce, »
répliqua Hermione, le visage sombre.
« Ah bon ?»
dit Ron, interdit.
« Par exemple ?» Le progrès pour le progrès ne doit pas être encouragé. Ou encore, taillé dans le vif chaque fois que nous serons confrontés à des pratiques dont l'interdiction s'impose.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Ron avec impatience.
Ça veut dire ce que ça veut dire, répondit Hermione d'un ton lourd de menace. Que le ministère a décidé d'intervenir dans les affaires de Poudlard.
Des bruits divers retentirent soudain autour d'eux. De toute évidence, Dumbledore avait annoncé la fin de la soirée, car tout le monde s'était levé, prêt à quitter la grande salle. Hermione fit un bond, l'air effaré.
« Ron, nous sommes censés montrer le chemin aux premières années !»« Ah oui !»
répondit Ron, qui avait complètement oublié.
« Et vous n'avez pas fait les demi-portions ?»«
Ron !»« Bah, c'est vrai, quoi, ils sont tout petits !»«
Je sais, mais ce n'est pas une raison pour les traiter de demi-portions. »«
Les premières années !»
appela Hermione d'un ton autoritaire.
« Par ici, s'il vous plaît !»
Un groupe de nouveaux s'avança timidement entre les tables de Gryffondor et de Poufsouffle, chacun d'eux s'efforçant de ne surtout pas se mettre en avant. Ils avaient l'air en effet très petits. Harry était sûr qu'il ne semblait pas aussi jeune lorsqu'il était arrivé pour la première fois à Poudlard. Il leur adressa un sourire bienveillant. Un jeune homme blond, à côté d'Ewan Abercrombie, avait l'air pétrifié. Il donna un petit coup de coude à Ewan et lui murmura quelque chose à l'oreille. Ewan Abercrombie parut alors tout aussi terrifié et lança un regard d'effroi à Harry, qui sentit son sourire glisser de son visage comme une coulée d'empestine. « À plus tard, » dit-il à Ron et à Hermione. Il se dirigea seul vers la sortie de la grande salle, en faisant son possible pour rester indifférent aux regards, aux chuchotements et aux doigts pointés qui le suivaient sur son passage. Les yeux fixés devant lui, il se fraya un chemin jusqu'au hall d'entrée, puis se dépêcha de monter l'escalier de marbre, prit un ou deux raccourcis secrets et se retrouva bientôt loin de la foule. « Il avait été stupide de ne pas prévoir ce genre de réaction, » pensa-t-il avec colère, tandis qu'il parcourait les couloirs beaucoup moins fréquentés des étages supérieurs. Rien d'étonnant à ce que tout le monde le regarde. Deux mois plus tôt, il était sorti du labyrinthe du tournoi des trois sorciers en tenant le cadavre d'un de ses camarades d'école et en affirmant qu'il avait vu Voldemort retrouver sa puissance. Il n'avait pas eu le temps de s'expliquer avant le départ des élèves en vacances d'été, même s'il s'était senti prêt à faire le récit devant toute l'école rassemblée des terribles événements qui avaient eu lieu dans le cimetière. Harry parvint au bout du couloir qui menait à la salle commune de Gryffondor et s'arrêta devant le portrait de la grosse dame. Il s'aperçut alors qu'il ignorait le mot de passe. « dit-il tristement. La grosse dame, qui était occupée à lisser les plis de sa robe de satin rose, lui lança un regard sévère.
« On n'entre pas sans mot de passe !»
dit-elle avec dédain.
« Harry, je le connais !»
dit quelqu'un derrière lui d'une voix haletante. Il se retourna et vit Neville qui arrivait en courant.
« Devine ce que c'est ! Cette fois-ci, je vais enfin m'en souvenir !»
Il brandit le petit cactus rabougri qu'il lui avait montré dans le train.
« C'est Mimbulus Mimbletonia. »«
Exact !»
dit la grosse dame. Son portrait pivota aussitôt vers eux à la manière d'une porte, révélant un trou circulaire aménagé dans le mur par lequel Harry et Neville se faufilaient. La salle commune de Gryffondor paraissait aussi accueillante que d'habitude.
C'était une pièce circulaire qui épousait la forme de la tour, meublée de fauteuils défoncés et de vieilles tables bancales qui lui donnaient un caractère intime et chaleureux. Un feu de bois brûlait joyeusement dans la cheminée et quelques élèves s'y réchauffaient les mains avant de monter dans les dortoirs. À l'autre bout de la pièce, Fred et George Wesley étaient en train d'accrocher quelque chose au tableau d'affichage. Harry les salua d'un signe de la main, puis se dirigea droit vers la porte de l'escalier qui menait au dortoir des garçons. Il n'était guère d'humeur à faire la conversation pour le moment. Neville le suivit. Dean, Thomas et Seamus Finnegan se trouvaient déjà dans le dortoir, occupés à recouvrir d'affiches et de photos les murs qui entouraient leur lit. Lorsqu'ils virent entrer Harry, ils interrompirent aussitôt leur conversation. Harry se demanda si c'était de lui qu'il parlait ou s'il devenait paranoïaque. « Salut !» dit-il en allant ouvrir sa grosse valise.
« Salut Harry !» lança Dean qui enfilait un pyjama aux couleurs de West Ham. « Passé de bonnes vacances ?»«
Pas mal, oui, » marmonna Harry. Un compte-rendu détaillé aurait occupé la plus grande partie de la nuit et c'était au-dessus de ses forces. « Et toi ?»«
Ah oui, oui, ça s'est bien passé !» affirma Dean avec un petit rire.
« Mieux que pour Seamus, en tout cas !»
Il était en train de me raconter.
« Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Seamus ?»
demanda Neville en déposant tendrement son main bulus, main bleutonia, sur sa commode. Seamus ne répondit pas tout de suite. Il semblait beaucoup trop occupé à s'assurer que son affiche représentant l'équipe de Quidditch des Cresserelles de Kenmar était bien droite. Enfin, tournant toujours le dos à Harry, il dit
« Ma mère ne voulait pas que je revienne.
Quoi ?» Harry, qui était en train d'enlever sa robe de sorcier, interrompit son geste.
Elle ne voulait pas que je revienne à Poudlard.
Seamus se détourna de son affiche et retira son propre pyjama de sa valise, en prenant soin de ne pas regarder Harry.
Mais pourquoi ? S'étonna celui-ci.
Il savait que la mère de Seamus était une sorcière et ne comprenait pas ce qui aurait pu la pousser à adopter une attitude si proche de celle des Dursley. Seamus attendit d'avoir fini de boutonner son pyjama pour répondre.
Eh bien, dit-il d'une voix posée, « j'imagine que c'est à cause de toi. »«
Qu'est-ce que tu veux dire ?» répliqua vivement Harry. Son cœur s'était mis à battre plus vite et il eut la vague impression que quelque chose se refermait sur lui.
« Eh bien, »
répéta Seamus en continuant d'éviter le regard de Harry, «
c'est pas seulement toi, c'est aussi Dumbledore. »«
Elle croit ce qui est écrit dans la Gazette du Sorcier, c'est ça !» dit Harry. « Elle pense que je suis un menteur et Dumbledore un vieux fou. »
Seamus leva les yeux vers lui.
« Ouais, quelque chose dans ce goût-là. »
Harry ne répondit rien. Il jeta sa baguette magique sur sa table de chevet, ôta sa robe de sorcier, la fourra d'un geste furieux dans sa valise et mit son pyjama. Il en avait assez, assez d'être celui qu'on regardait et dont on parlait tout le temps. Il en était malade. Si l'un d'entre eux savait, si l'un d'entre eux avait la moindre idée de ce qu'on pouvait ressentir quand on avait vécu tout ce que lui avait vécu.
Mrs. Finnegan n'en savait rien du tout. La pauvre idiote, songea Harry avec férocité.
Il se glissa dans son lit et tendit la main pour fermer les rideaux de son baldaquin, mais avant d'avoir pu achever son geste, Seamus demanda
« Écoute, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là quand, quand... avec Cédric Diggory et tout ça. »
Seamus paraissait à la fois inquiet et avide de savoir. Dean, qui s'était penché sur sa valise pour essayer d'y retrouver une pantoufle, s'immobilisa dans une attitude qui n'était pas très naturelle, et Harry devina qu'il tendait l'oreille.
« Pourquoi me demander ça ? » répliqua Harry. « Tu n'as qu'à lire la Gazette du Sorcier, comme ta mère. Tu y apprendras tout ce que tu as besoin de savoir. »
« Ne t'en prends pas, ma mère !» protesta Seamus.
« Je m'en prendrai à tous ceux qui me traitent de menteur !» répondit Harry.
« Ne me parle pas sur ce ton ! Je te parle sur le ton qui me plaît !» Son humeur s'échauffait à tel point qu'il attrapa sa baguette magique sur la table de chevet. « Si ça te pose un problème de partager un dortoir avec moi, va donc demander à McGonagall de te mettre ailleurs ! Comme ça, ta maman cessera de s'inquiéter !»« Laisse ma mère tranquille, Potter ! Qu'est-ce qui se passe ici ?»
Ron venait d'apparaître sur le seuil de la porte. Il regarda successivement Harry à genoux sur son lit, sa baguette pointée sur Seamus, puis Seamus lui-même, les poings levés en position de combat.
« Il s'en prend à ma mère !» s'écria Seamus.
« Quoi ? » dit Ron.
Harry ne ferait jamais ça. On l'a rencontré, ta mère, on l'a trouvée très sympathique.
Ça, c'était avant qu'elle croie tout ce que cette immonde gazette du sorcier écrit sur moi, s'exclama Harry de toute la puissance de sa voix.
Ah, dit Ron, qui commençait à comprendre.
D'accord.
Tu sais quoi? Lança Simus d'un ton enflammé en jetant à Harry un regard venimeux. Il a raison. Je veux plus me retrouver dans le même dortoir que lui. Ce type est fou.
Mais tu dérailles, Simus,
dit Ron, dont les oreilles commençaient à rougir, ce qui était toujours chez lui un signal d'alerte.
Je déraille, moi,
s'indigna Simus, qui, contrairement à Ron, était devenu très pâle.
Alors toi, tu crois toutes les imbécilités qu'il raconte sur tu sais qui? Tu penses qu'il dit la vérité?
Oui. Qu'est-ce que je pense? Répliqua Ron avec colère.
Dans ce cas, toi aussi t'es fou,
dit Simus d'un ton dégoûté.
Ah ouais? Malheureusement pour toi, mon vieux, il se trouve que je suis aussi préfet,
répondit Ron en tapotant son insigne.
Alors si tu veux éviter une retenue, fais un peu attention à ce que tu dis.
Pendant quelques secondes, Simus parut penser qu'une retenue était un prix raisonnable à payer pour pouvoir dire ce qu'il avait sur le cœur. Mais, avec une exclamation de mépris, il finit par tourner les talons, sauta sur son lit et ferma les rideaux du baldaquin avec une telle violence qu'ils s'arrachèrent de leurs tringles et tombèrent sur le sol en un gros tas d'étoffes poussiéreuses. Ron lança un regard noir à Simus, puis se tourna vers Dean et Neville.
« Est-ce que d'autres parents ont un problème avec Harry ?»
demanda-t-il d'un ton agressif.
« Mes parents sont démoldus, » répliqua Dean avec un haussement d'épaule. « Ils ne sont absolument pas au courant qu'il y a eu un mort à Poudlard, vu que je suis pas assez idiot pour leur parler de ça. »
« Eh bien moi, tu connais pas ma mère. Elle arriverait à faire avouer n'importe quoi à n'importe qui, » lui lança Simus.
« De toute façon, tes parents ne lisent pas la Gazette du Sorcier. Ils savent pas que notre directeur a été renvoyé du Maguen Magot et de la Confédération Internationale des Mages et Sorciers, parce qu'ils commencent à perdre la boule. »«
Ma grand-mère dit que ce sont des idioties, » intervint Neville. « Elle dit que c'est la Gazette du Sorcier qui est sur la mauvaise pente, pas Dumbledore. »«
Elle a annulé notre abonnement. Nous, on croit Harry. » ajouta simplement Neville.
Il se mit au lit et remonta les couvertures jusqu'à son menton, en lançant à Simus un regard de hibou.
« Ma grand-mère a toujours dit que tu sais qui reviendrait un jour. Et elle dit que si Dumbledore annonce qu'il est revenu, c'est qu'il est revenu. »
Harry sentit monter en lui une bouffée de gratitude pour Neville. Plus personne n'ajouta un mot. Simus sortit sa baguette magique, répara les rideaux de son lit et disparut derrière. Dean se coucha également, se tourna sur le côté et demeura silencieux. Neville, qui n'avait rien d'autre à ajouter, regardait avec tendresse son cactus éclairé par un rayon de lune. Harry posa la tête sur ses oreillers, tandis que Ron s'activait autour du lit voisin en rangeant ses affaires. Il se sentait ébranlé par sa dispute avec Simus, qu'il avait toujours bien aimé. Combien d'autres allaient répandre à leur tour la rumeur qu'il était un menteur ou un détraqué? Dumbledore avait-il connu la même souffrance cet été lorsque le Maguen Magot, puis la Confédération Internationale des Sorciers, l'avaient exclu de leur rang? Était-ce un sentiment de colère contre Harry qui l'avait dissuadé de le contacter ces derniers mois? Après tout, ils étaient tous les deux embarqués sur le même bateau. Dumbledore avait cru son récit. Il avait répété sa version des événements devant l'école tout entière, puis, plus largement, à la communauté des sorciers. Quiconque pensait que Harry était un menteur devait considérer que Dumbledore en était un aussi, ou bien qu'il avait été abusé.
« Ils finiront par comprendre que nous avons raison, » songea Harry, désemparé, alors que Ron se couchait et éteignait la dernière chandelle du dortoir.
Mais il se demandait combien d'attaques semblables à celles de Simus il devrait subir avant que vienne enfin le temps de la vérité.